On continue donc notre parcours de l'évangile de Marc. On a vu comment Jésus a démarré son ministère en chassant des démons, l'insistance mise sur les démons, comment il a le pouvoir de les chasser, en guérissant des malades, et bien sûr en prêchant la parole, sa première mission. Et on va voir la suite de son ministère. Jésus est capable de pardonner les péchés. Je vous propose de prendre dans l'évangile de Marc, chapitre 1, à partir du verset 40, donc là où on s'était arrêté, jusqu'au verset 3, verset 12. Et j'ai intitulé mon message « Lève-toi ». Donc Marc 1, verset 40. Et je vais prier. « Seigneur, je te remets ces instants que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole, que Seigneur, tu agisses dans nos cœurs par ta parole, à chacun que... Voilà, que chacun nous recevions ce que tu as à nous dire, chacun pour notre part, et que ta parole agisse, Seigneur, que pour nous faire porter du fruit, Seigneur, pour toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Marc 1, 40. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la maison, que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au fond d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un passage qui nous montre que Dieu récompense la foi. Dieu récompense la foi personnelle qu'on a pour nous-mêmes et la foi qu'on peut avoir pour les autres. On peut avoir aussi la foi pour les autres. Et je vais y revenir. Pas n'importe quelle foi. La foi qui amène à Jésus. La foi qui mène à Jésus. Ce sera mon message en deux points. Dieu récompense la foi personnelle, premier point, et Dieu récompense la foi pour les autres, deuxième point. Premier point, Dieu récompense la foi personnelle. Jésus donc a commencé son ministère en prêchant, en guérissant des malades, en chassant des démons. Et le voilà maintenant en Galilée, à parcourir la Galilée. Et sa renommée ne met pas longtemps à se répandre. Sa renommée est parvenue aux oreilles d'un lépreux. Un lépreux qui va manifester une foi personnelle remarquable. Parce que être lépreux à l'époque, eh bien, ça signifiait souffrir d'une maladie qui pouvait durer jusqu'à 10, 15 ans. Une maladie, longue maladie, qui non seulement atteignait la peau, mais les organes. Les terminaisons, les orteils, les doigts, que les lépreux finissaient par perdre. Ça atteignait les yeux, ça atteignait le centre nerveux, ça atteignait toute la personne. Et puis non seulement il y avait la souffrance physique du lépreux, mais le lépreux était aussi exclu de la société. Il devait porter une clochette et partout où il allait, il devait crier « lépreux, lépreux » pour que les gens s'écartent par peur d'être contaminés, pour ne pas être contaminés. Donc double souffrance, souffrance physique, souffrance sociale, isolement. Pourtant, ce lépreux va manifester une foi extraordinaire, malgré sa situation. Imaginez la scène. Il va braver les interdits. Il va se frayer un passage dans la foule et il se jette littéralement aux pieds de Jésus. Son attitude montre une attitude de supplication. Il va le supplier. Supplier de quoi ? De le rendre pur. Imaginez la scène quand les gens ont dû voir le lépreux approcher, ils ont dû s'écarter par peur d'être contaminés. Mais Jésus est resté là, devant le lépreux. Allait-il le rejeter ? Allait-il s'éloigner ? Non. La lèpre, la maladie la plus redoutée à l'époque, eh bien, c'était pas une maladie comme les autres, pour la bonne raison que la Bible ne dit jamais être guéri de la lèpre. La Bible ne dit jamais qu'un lépreux a été guéri, mais un lépreux a été purifié. La Bible parle de la purification du lépreux et pas de sa guérison. Et le lépreux ne demande pas à Jésus de le guérir, il lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Une petite phrase, mais qu'on va décortiquer parce que c'est une pépite. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Alors certainement, ce lépreux, il avait dû apprendre que Jésus avait déjà guéri des malades, comme on l'a vu la dernière fois. Plein de malades. Et ce lépreux croyait avec certitude que Jésus seul pouvait le purifier. Il croyait en lui, le seul capable de le purifier de la lèpre. Alors, cette fois, il l'a manifesté. Il est sorti de son isolement, il est sorti de chez lui pour aller vers Jésus. Il s'est levé de sa maison pour aller vers Jésus. Est-ce que vous, parfois, vous avez tendance à vous isoler ? Parfois, dans vos jours de congé, quand vous êtes à la maison, est-ce que vous n'avez pas envie de sortir ? Il fait gris. On entend beaucoup de nouvelles anxiogènes à la radio. Et du coup, ça vous fait vous replier sur vous-même. Vous n'avez pas envie de voir les gens. Vous avez juste envie de rester chez vous. Moi, des fois, ça m'arrive. Je ne sais pas vous. Mais toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre à la radio, que les médias nous envoient, bien sûr, hein. Et ça peut être une tentation de rester chez soi, de s'isoler, de plus voir personne, mais ça règle pas le problème. Ça règle pas le problème. Et si vous vous êtes levé pour être là ce matin, et c'est le cas, vous vous êtes levé de votre lit pour être là ce matin, eh bien vous avez fait le bon choix pour venir à l'église, pour entendre la parole de Dieu, pour nous encourager mutuellement. Vous avez fait le bon choix. C'est parfois dur de se lever. On est dans une société qui de plus en plus est sédentaire. Et j'entendais une émission, un médecin qui parlait de la jeune génération, la génération écran, qui est très souvent scotchée devant son smartphone, qui fait très peu d'exercice physique, qui ne se lève pas. Une génération qui a pris du poids. Et il disait sérieusement que cette génération aujourd'hui, elle a plus de possibilités d'attraper un infarctus à 30 ans que la génération d'avant. L'infarctus était plutôt possible vers 40-50 ans, les premiers signes, pour quelqu'un de sédentaire, quelqu'un qui ne fait pas attention. Mais là, le risque, il est accru pour la jeune génération. À partir de 30 ans, il disait, ils sont beaucoup plus sujets. Ils pourront être sujets à l'infarctus pour ne pas bouger, pour ne pas se lever, tellement ils sont attachés à leurs écrans. Lui, ce lépreux, il a choisi de se lever, de sortir de chez lui. Il est sorti. La lèpre, elle est souvent associée au péché dans la Bible. Le péché qui est la désobéissance à Dieu. Elle est associée au péché parce que la lèpre atteint toutes les fibres de la personne, toute la personne. Eh bien, le péché nous a atteint dans toute notre personne, aussi bien physiquement que moralement. Elle a atteint tout notre être et le péché nous rend impurs aux yeux de Dieu. La lèpre rend impur. Aussi, il y a des points communs entre un autre point commun entre le péché et la lèpre, c'est que le péché nous isole les uns des autres. Le lépreux devait rester isolé chez lui. Le péché parfois nous isole parce qu'on a honte. Le péché nous désocialise. On se sent coupable, honteux, sale, pas digne de nous approcher de Dieu, Dieu qui est pur. On se sent impur. Et dans beaucoup de religions, les gens ont besoin de se sentir purifiés, de trouver la purification de leur péché. Nous avons tous besoin, nous aussi, d'être purifiés, c'est-à-dire d'être pardonnés de nos péchés. C'est ainsi que nous pouvons être purifiés. Et la question est-ce que Dieu veut nous purifier ? Dieu veut-il nous purifier ? Eh bien, avec certitude, nous pouvons dire oui. La réponse qu'il donne aux lépreux, c'est la même pour nous. Quelle est cette réponse ? Je le veux, sois pur. N'en doutons pas, il veut nous purifier. Il veut nous pardonner et nous purifier. Et juste ce verset qui me vient, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le pardon s'accompagne de la purification de nos péchés, grâce à ce qu'il a fait. Alors, la maladie, c'est différent. Dieu est souverain. Il peut choisir de ne pas guérir telle personne atteinte de telle maladie. Il le peut. Il l'a montré déjà. On l'a vu dans les passages précédents. Autant il peut choisir de ne pas guérir un tel d'une maladie, autant il veut, n'en doutons pas, pardonner à quelqu'un qui s'humilie devant lui. Il le veut. Tel ce lépreux qui a fait une prière suppliante à Jésus. Ce lépreux, il a manifesté une attitude d'humilité. Il a supplié Jésus. Il s'est humilié devant lui. Il s'est mis à genoux. Il a montré encore de l'humilité en lui disant « Si tu veux, si tu veux. » Il a reconnu sa souveraineté. Il a reconnu qu'il n'a pas d'ordre à lui donner. Vous savez, parfois, on entend c'est le mythe, on entend presque comme si la personne donnait un ordre à Dieu de guérir ici et maintenant. Et non, le lépreux lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il n'y a aucune revendication dans sa prière, mais il y a de la foi. Si tu veux, tu peux. Le lépreux savait et croyait que Jésus pouvait le guérir s'il le veut. Une prière brève, une prière dans l'humilité, humble, et une prière qui exprime, une courte prière qui exprime clairement le besoin. Il est précis dans sa prière, le lépreux. Il veut quoi ? Il veut être purifié. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Il est précis dans sa prière. Prière courte, précise, concise. Et cette prière, je m'adresse non seulement ici, dans cette salle, mais aussi ceux qui nous écoutent. Cette prière, eh bien, elle peut être aussi la tienne, si tu ne l'as jamais formulée. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et tu peux être sûr que Jésus y répondra, comme il a répondu aux lépreux. Jésus a eu de la compassion pour le lépreux, qui souffrait doublement de sa maladie et de son isolement, de l'exclusion. Jésus a eu de la compassion pour le lépreux, sois sûr que Jésus a de la compassion pour toi si tu regrettes ton péché, si tu veux t'en débarrasser. Jésus a de la compassion pour toi si ton péché te fait souffrir, si ton péché te fait honte. Lorsque Pierre avait été témoin d'une pêche miraculeuse avec Jésus, il a compris. Il a compris qu'il avait Jésus en face de lui, il n'avait pas n'importe qui. Et il a dit à Jésus, retire de moi car je suis un homme pécheur. Il a eu peur, mais Jésus l'a rassuré. Si des gens t'ont repoussé, Jésus ne te repousse pas à cause de ton péché. Il t'accueille si tu viens à lui. Jésus n'a pas reculé devant le lépreux. Tout le monde a dû reculer par peur d'être contaminé. Mais de même que Jésus n'a pas reculé devant le lépreux, contrairement à tous ceux qui l'évitaient, par crainte d'être contaminé, Jésus n'a pas reculé devant ton péché et le mien. Jésus n'a jamais été contaminé par le péché. Au contraire, non seulement il ne pouvait pas être contaminé par le péché, mais il veut nous donner sa pureté. Et pour ça, eh bien, il est allé jusqu'à porter notre péché sur la croix, à notre place, pour pouvoir nous pardonner et pour pouvoir nous purifier, pour pouvoir nous rendre purs, nous purifier. Pardon. Et il nous propose un échange. Il te dit, si tu ne l'as jamais fait, eh bien, voici ce qu'il te propose. Donne-moi ton péché qui t'a rendu impur et moi je te donne ma vie, la vie éternelle qui te rend pur. Et vous avez remarqué que dans cette scène, Jésus a étendu la main sur le lépreux. Et bien de même qu'il a étendu sa main sur le lépreux, il a étendu sa main sur nous. Parce que nous avions le bras trop court pour atteindre Dieu. On a le bras trop court pour aller vers Dieu. C'est impossible d'aller à Dieu par nous-mêmes, c'est lui qui est descendu vers nous. Et il nous tend, il te tend la main. Jésus a touché le lépreux pour le libérer de sa lèpre. Eh bien, il veut te toucher pour te libérer de ton péché. Approche-toi de lui, même si tu ne te sens pas digne, et il te sauvera sur le champ. Comme il a purifié sur le champ le lépreux suppliant. Et non seulement cela, non seulement il nous pardonne, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec le lépreux? Il a chassé la lèpre, il a chassé sa maladie. Il a chassé sa maladie. Eh bien, il veut faire la même chose avec notre péché. Il veut chasser au loin ton péché. Il veut chasser au loin notre péché. Verset 42, « Aussitôt la lèpre le quitta. » Elle est partie. Et c'est intéressant parce que dans la loi de Moïse, que Jésus a demandé à l'homme de respecter, eh bien, je vais y revenir. Il fallait offrir un sacrifice d'oiseau. Il y avait deux oiseaux. Il fallait sacrifier un premier oiseau et donc le tuer et verser son sang. Et il fallait que le deuxième oiseau soit trempé dans le sang du premier oiseau. Et le deuxième oiseau, il devait partir. Il pouvait s'envoler. Et c'est une image de ce qui se passe dans la maladie de la lèpre pour dire que le lépreux a été purifié. Sa lèpre est partie au loin. Et bien quand Jésus nous pardonne notre péché, il chasse au loin notre péché. Il veut le chasser au loin. Psaume 103, verset 12 nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Quand Jésus sauve quelqu'un, non seulement il nous purifie, il nous pardonne, il nous purifie, mais il éloigne de nous notre péché, il l'éloigne. Jésus a donc purifié ce lépreux et Jésus lui fait une sévère recommandation de ne pas divulguer aux autres sa purification. Pourquoi ? Pour que sa réputation, la réputation de Jésus, ne nuise pas à son message. Parce que pour Jésus, la première mission, c'était de prêcher la parole avant de guérir les malades, avant de chasser les démons, avant de purifier. Sa première mission, c'était de prêcher la parole. Pour lui, c'était plus important que les guérisons. Et c'est bien la parole qu'il met en premier parce que Jésus demande aux lépreux d'accomplir la parole qui est en Lévitique 14, qui disait de se montrer au sacrificateur et d'offrir le sacrifice, donc ces oiseaux dont parle Lévitique 14, la loi sur la lèpre. Si ce lépreux avait obéi, il n'a pas obéi, il a désobéi, eh bien, c'est en obéissant à Jésus que l'homme lui aurait montré la plus grande reconnaissance. C'est en obéissant à Jésus que ce lépreux aurait purifié, aurait été utile à Jésus. Si le lépreux avait obéi à Jésus, il aurait été voir le sacrificateur et les sacrificateurs qui ne croyaient pas en Jésus, là ils auraient eu quelqu'un qui était la preuve vivante que Jésus effectivement pouvait guérir quelqu'un de la lèpre, le purifier et pardonner les péchés. Mais l'homme a désobéi à Jésus. En publiant hautement la chose, nous dit le texte. Publier, j'ai regardé, c'est le même mot que prêcher. C'est le même mot qui est utilisé pour Jésus. C'est le même mot que prêcher. Alors, on pourrait croire, mais l'homme, il est allé parler de Jésus aux autres. Mais ce n'est pas ce que Jésus lui avait demandé. Il lui avait demandé d'accomplir la loi, d'obéir à la loi. Par sa désobéissance, et bien qu'il prêche, il va gêner le ministère de la parole de Jésus dans les villes. Jésus qui est donc obligé d'aller dans le désert. Il a gêné le ministère de Jésus, en croyant bien faire, certainement. L'obéissance. La soumission. Mot qui passe pas bien hein, de nos jours. Pourtant, c'est ce qui nous est demandé, n'est-ce pas? C'est l'obéissance qui manifeste notre reconnaissance. Et notre obéissance est plus importante que notre témoignage. Et par là même, notre obéissance, c'est le meilleur témoignage. Elle doit être notre témoignage. Notre obéissance à, non pas à une loi, mais à celui qui a donné la loi, à Jésus. Quelqu'un qui est vivant. Non pas l'obéissance à la loi juive. Jésus l'a parfaitement accompli. Mais notre obéissance à Jésus. En fait, le témoignage attendu par Jésus pour l'homme, c'était que l'homme lui obéisse. Voilà le témoignage qu'il attendait, que Jésus attendait de l'homme. C'était un test d'obéissance. Et pour nous, eh bien, pourquoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés pour être réconciliés avec Dieu. Nous sommes sauvés pour obéir. Pas une loi morte, une lettre morte. Nous sommes sauvés pour obéir à celui qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité. Nous ne sommes pas sauvés pour obéir à la loi rituelle juive. Les 10 commandements, c'est différent. La loi morale, elle reste toujours valable. Il y a des bénédictions à vouloir suivre les 10 commandements sans prétendre être sauvés. Les 10 commandements ne nous sauvent pas. Mais il y a des bénédictions à obéir à la loi morale. Nous sommes sauvés pour obéir à Jésus, pour nous mettre à ses pieds, pour obéir à ses commandements. Ce n'est qu'après avoir été sauvés que nous pouvons obéir à Jésus. Et c'est, voilà notre témoignage. Notre témoignage, il est dans notre obéissance au Seigneur. Jésus lui-même qui dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 10, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Il savait de quoi il parlait. Il pouvait le dire, Jésus, il a obéi à 100% à son Père. Et il nous demande de lui obéir. Qui est la preuve que nous restons dans son amour. Voilà donc premier épisode, l'histoire d'une la purification de ce lépreux. Et Jésus, donc, il ne peut plus exercer son ministère dans les villes. Hein. Il est parti au désert et puis il le voilà donc de retour à Capernaum. Vous vous rappelez, c'est là qu'il avait établi son quartier général. Et on suppose qu'il est arrivé dans la maison de l'apôtre Pierre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet à sa première mission qui est de prêcher l'évangile. L'évangile du salut par la grâce, par le moyen de la foi. Il se remet à prêcher l'évangile. Et une grande foule s'était entassée devant la maison. Et là, eh bien, il se passe quelque chose, effectivement. Voici que 4 hommes portant un paralytique sur une civière qui était son lit, en fait. 4 hommes portant un paralytique sur une civière arrivent pour l'amener à Jésus. Mon deuxième point, Dieu récompense la foi pour les autres. Voilà donc ces 4 hommes, et voici que surgit un problème de taille, et pas des moindres. Comment se frayer un passage à travers cette foule? La porte est inaccessible. Imaginons ces 4 hommes qui portent quand même ce paralytique. Ils ont fait tout ce chemin, on ne sait pas la distance, mais ils ont quand même fait un effort pour venir à Jésus. Et pour ce paralytique qu'ils ont voulu amener à Jésus, comment se frayer un passage? C'est impossible, il y avait tellement de gens. Alors est-ce que les hommes vont se décourager? Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux tout de suite? Non, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Ils vont persévérer. Alors, il y avait des escaliers qui montaient sur la terrasse du toit à l'époque. Ils ont dû monter par l'escalier extérieur. Ils sont montés sur le toit. Les toits étaient plats à l'époque. Hein. Imaginez pas les charpentes comme aujourd'hui. Les toits étaient plats. Il y avait une couche d'argile sur la terrasse. Ils ont dû creuser cette couche d'argile pour y faire un trou pour se frayer un passage et descendre le paralytique sur sa civière, sur son lit. Imaginez la scène, c'était périlleux. Comment ils s'y sont pris? À eux quatre, au-dessus du toit, il fallait bien sûr surtout pas qu'ils lâchent le paralytique. Il était déjà dans un mauvais état. Alors ils ont dû prendre tout leur temps pour faire descendre le paralytique sans causer un accident. Et par là, eh bien sûr, c'est pas passé inaperçu aux yeux de Jésus. Ils ont fait preuve d'une foi exemplaire, que Jésus ne va pas manquer de souligner devant tous ceux qui sont présents. Verset 5, 3, 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors là, on a beaucoup de leçons de foi à tirer de cet épisode, sur la manière dont ils sont pris les hommes et aussi ce paralytique. Déjà, que nous apprend ce passage, c'est que l'union fait la force. Ils s'y sont mis à quatre quand même, hein, pour porter cet homme sur son lit, sur sa natte. Un seul homme n'aurait jamais pu amener à Jésus le paralytique. Il fallait être quatre pour le porter. Et Jésus a béni, il a béni quoi? Il a béni le travail en équipe de ces hommes. Comment il a béni leur travail? Comment il a récompensé leur foi en sauvant le paralytique? Et de même que Jésus a béni le travail en équipe de ces quatre hommes, croyons, soyons sûrs que Jésus veut bénir notre travail en équipe quand il s'agit d'aller trouver ceux de l'extérieur pour les amener à Jésus. Il veut bénir notre travail en équipe. Pour aller vers des gens qui sont dans l'incapacité de se déplacer par eux-mêmes. Pour aller vers des gens qui ne mettraient jamais les pieds dans une église. Soyons sûrs que Jésus veut bénir notre travail en équipe. C'est à nous d'aller vers eux. Comme ça a été dit déjà. Beaucoup de leçons de foi tirées de ce passage. Et précédemment, le lépreux, c'était sa foi personnelle qui l'a poussé vers Jésus. Ici, c'est différent, un peu différent. C'est la foi des quatre hommes qui ont amené ce paralytique à Jésus. La foi du lépreux, elle était remarquable. Il a surmonté les obstacles liés à sa maladie, il est sorti de son isolement. Or ici, on assiste à un témoignage de foi exemplaire. C'est une foi qui est pour autrui. Une foi qui va servir autrui. Une foi qui va servir quelqu'un qui n'est en incapacité de se déplacer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut croire à la place de quelqu'un et la personne n'a plus rien à faire? Non, c'est pas ce que nous dit ce passage. Je vais revenir sur la foi personnelle du paralytique parce qu'il a une foi personnelle aussi. Mais en tout cas, croyons que nous pouvons avoir la foi pour quelqu'un jusqu'à ce que lui manifeste sa propre foi. La foi des quatre hommes, eh bien, c'est cette foi commune qui leur a donné de l'ingéniosité pour surmonter les obstacles. Quand ils ont vu la foule devant la porte, ils ont eu une idée géniale. Il fallait quand même oser monter sur le toit et creuser le toit. J'espère que le propriétaire de la maison a été compréhensif, et je le crois. Mais en tout cas, vous avez remarqué, quand est-ce que ces quatre hommes ont eu cette idée géniale de monter sur le toit? Eh bien, il fallait d'abord qu'ils aillent devant la maison. Ils ont pris le paralytique sur sa civière, ils ont fait le chemin jusqu'à la maison, qu'on suppose être la maison de Pierre. C'est après le premier pas de foi, le premier, que viennent les autres idées. Souvent, on est à court d'idées, mais parfois, ce qui nous manque, ce qu'il faut simplement, c'est le premier pas de foi, d'aller, lève-toi, va, après tu sauras comment faire. Ce n'est qu'à ce moment-là que les quatre hommes ont eu une idée géniale de monter sur le toit, creuser un trou et de faire descendre le paralytique. C'est leur foi qui leur a donné de l'audace, on peut dire, et de la persévérance. Ils ne se sont pas découragés. Alors j'ai lu quelque part que on pourrait donner un nom à chacun des quatre hommes. L'un aurait pu s'appeler foi, parce qu'il fallait de la foi pour faire ce pas. L'autre aurait pu s'appeler entraide, parce que les quatre hommes se sont entraidés. Le troisième aurait pu s'appeler persévérance, parce qu'ils ne se sont pas découragés. Et le quatrième aurait pu s'appeler ingéniosité, parce qu'il fallait une idée géniale pour pénétrer, pour aller jusqu'au bout devant Jésus. Foi, entraide, persévérance, ingéniosité. Voilà tout ce qui peut ressortir d'un travail en commun. Et puis ces quatre hommes, eh bien, ils ont certainement dû avoir leur amitié grandement fortifiée. Leur témoignage d'amitié a dû encore plus les souder, ces quatre hommes, parce qu'ils se sont mis ensemble pour venir, ils se sont mis d'accord pour venir en aide à ce paralytique qui pouvait pas tout seul. Ce paralytique qui devait souffrir, doublement souffrir, eh bien, les quatre hommes ont dû voir leur amitié, leur amour fraternel grandir quand ils se sont mis d'accord pour aller aider ce paralytique. Alors voilà une bonne manière de garder l'unité dans l'Église. Servir les autres. Que nous nous servions les uns les autres. Le service les uns envers les autres. Oui, les quatre hommes ont manifesté une foi extraordinaire et Jésus va répondre à leur foi. La réponse de Jésus a de quoi étonner. Il s'adresse au paralytique, il lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais attends là, le paralytique et les quatre hommes, est-ce qu'ils venaient pas pour la guérison le paralytique ne venait-il pas pour être guéri plutôt que pour avoir ses péchés pardonnés? À l'époque, beaucoup pensaient que les maladies étaient la conséquence des péchés. Et c'est vrai. Dans certains cas, le péché a toujours des conséquences si on ne s'en repent pas immédiatement. Mais dans certains cas, le péché a des conséquences sur le corps physique. Aujourd'hui, la médecine moderne reconnaît que l'être humain, on appelle ça prendre l'être de façon holistique, c'est-à-dire entière. Le corps, le spirituel, le physique, l'être humain forme une seule personne. Il est entier, on peut pas détacher son âme de son corps. Il est entier. Son moral influe sur son corps. Oui, le péché a des conséquences sur le corps, mais attention, une maladie n'est pas forcément liée à un péché personnel. Une maladie n'est pas forcément liée à un péché personnel. En témoignent ceux qui sont nés avec un handicap. Et l'Évangile nous donne l'exemple de l'aveugle né dans l'Évangile de Jean chapitre 9. Jésus dit, en Jean 9 verset 3, il dit « Ce n'est pas que lui, donc l'aveugle, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc ne tombons pas dans l'extrême de dire « Il a péché, il est malade, donc c'est qu'il a péché. » Non. Mais peut-être que le paralytique croyait, lui, que son handicap était la conséquence de son péché. Peut-être que lui aussi, il souffrait doublement. Il souffrait déjà de son handicap. Et peut-être qu'il souffrait d'une culpabilité. En se disant, s'il est comme ça, et peut-être qu'il l'a entendu d'autres personnes, si tu es comme ça, c'est que tu as péché. Et peut-être qu'il devait souffrir. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'était pas le cas? Ici, il est question de péché. Clairement. Et Jésus va lui pardonner son péché. Il va lui pardonner son péché avant de le guérir. En voulant lui montrer, à lui, aussi bien qu'à nous, que notre plus grand besoin, frères et sœurs, notre plus grand besoin, c'est d'être pardonné avant d'être guéri. Quel que soit si tu souffres d'une maladie, notre plus grand besoin est d'être pardonné de nos péchés. Voilà, d'être pardonné, oui, de nos péchés, avant d'être guéri. Guéri physiquement ou spirituellement. Le péché, Jésus sait que le paralytique a besoin d'être guéri, comme nous tous, mais ça ne l'empêche pas d'avoir de la compassion pour le paralytique dans sa situation de handicap. Il l'appelle affectueusement « mon enfant ». Jésus prend en compte l'homme dans sa globalité. Il prend en compte aussi bien ses besoins physiques que ses besoins spirituels, que ses besoins affectifs. Et Jésus va dire une phrase qui va marquer le début de l'opposition avec les religieux. Il va dire « tes péchés sont pardonnés ». Sa déclaration va marquer effectivement le début de l'opposition des scribes qui ne croyaient pas en lui. Les scribes qui étaient pourtant versés dans les Écritures. Les scribes refusaient d'admettre que la puissance et l'autorité de Jésus, qui chassait les démons, qui guérissait les malades, qui purifiait les lépreux, ils refusaient d'admettre que sa puissance lui vienne de Dieu. Ils pensent qu'ils blasphèment. Ils ne disent rien. Mais ils n'en pensent pas moins. Jésus connaît leur cœur. Jésus connaît leurs pensées. Ils pensent quoi? Ils pensent intérieurement, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Et Jésus lit dans leurs pensées. Et ils ont raison. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et aussi, seul Dieu peut lire dans les pensées. Et Jésus va leur montrer qu'il a lu dans leurs pensées. Jésus va leur montrer qu'il est capable des deux. De pardonner les péchés, de lire dans les pensées, et même de guérir physiquement le paralytique. Comment? Par sa parole. Uniquement par sa parole. Et Jésus va les mettre au défi, hein. Il va leur dire, Jésus va demander aux scribes, lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Si on réfléchissait bien, En fait, tout le monde peut affirmer les deux, tout le monde. Tout le monde peut dire les deux. Mais attention, seul Dieu peut accomplir les deux. Pardonner les péchés et guérir un paralytique. Et là, Jésus, eh bien, il va montrer l'invisible, ce qu'on ne voit pas. L'invisible, c'est qu'il peut pardonner les péchés. Jésus va montrer l'invisible par le visible, c'est-à-dire en guérissant le paralytique. Il va se servir de du handicap de ce paralytique pour montrer qu'il est capable de pardonner les péchés. Et il va accomplir dans le bon ordre le psaume 103, verset 3, qui nous dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Là, Jésus accomplit les deux. Il pardonne et il guérit. Je le redis, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Oui, Jésus, on voit bien la progression dans le ministère de Jésus. Jésus a montré que non seulement il est capable de chasser les démons, ce qu'on a vu précédemment, non seulement il est capable de guérir, non seulement il est capable de purifier un lépreux, mais il est aussi capable de pardonner les péchés. Son ministère s'éclaircit de plus en plus. Pardonner les péchés, notre plus grand besoin à tous. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir pour être pardonné. Il faut le vouloir en ayant foi en Jésus. Alors oui, c'est par la foi des quatre amis que le paralytique s'est retrouvé devant Jésus. Là, il s'agit de la foi des quatre amis. Mais c'était à lui, au paralytique, à démontrer sa foi personnelle en Jésus. Et il l'a fait. L'homme paralytique n'a pas discuté. Jésus, je te demande de me guérir tout de suite, là, ici et maintenant. Le pardon des péchés, on verra ça après. Il n'a pas discuté. Non, le paralytique a entendu tout ce que Jésus a dit aux scribes. Le paralytique a entendu dire Jésus aux scribes, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le paralytique, il a entendu ça. Et il a pris cette parole pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour montrer qu'il a entendu cette parole, il a obéi à Jésus. Jésus qui lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Eh bien, il a obéi. Il a montré sa foi personnelle, le paralytique. Le paralytique a montré que lui aussi se reconnaissait pécheur. Quand Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, le paralytique s'est inclus dedans. Il avait aussi besoin d'être pardonné. Tout paralytique qu'il était, effectivement. Il avait le besoin d'être pardonné. Il avait besoin de pardon. Et il a montré sa foi en Jésus. Et le texte nous dit, là encore, l'évangile de Marc, il y a beaucoup de fois, il est dit aussitôt, à l'instant, quand Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, le paralytique, il n'a pas attendu. Aussitôt, il s'est exécuté. Aussitôt, il s'est levé. Il a pris son lit. Alors, c'est pas un lit aujourd'hui, comme aujourd'hui avec les quatre pieds. C'était une natte. Hein. Il a pris son lit et il est sorti en présence de tous. Lui s'est levé. Les scribes, eux, ils étaient assis, nous dit le texte. Ils n'ont pas cru. Les scribes n'ont pas eu la foi ni la volonté des quatre hommes et du paralytique qui s'est levé. Les scribes n'ont pas cru. C'était le début de leur opposition à Jésus, comme le reste du texte, les chapitres suivants le montrent. Mais d'autres ont assisté à la scène. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont rendu gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'était le but de Jésus. Et tel devrait être aussi notre but à nous, Église. Dans tout ce que nous disons, faisons de rendre gloire à Dieu, que le nom de Jésus soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Si nous avons ce but-là, frères et sœurs, levons-nous, allons de l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le paralytique, déjà se mettre debout, il fallait le faire, mais il n'est pas resté là. Jésus lui a dit, va dans ta maison, il a marché. Eh bien, de même que le paralytique, debout, s'est mis à marcher, eh bien, nous, le pardon divin nous permet de marcher en nouveauté de vie avec Jésus. De marcher avec Jésus. Non seulement de nous lever, mais de marcher avec lui. Et je termine avec ce verset dans Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Je vais prier. Seigneur, encore une fois, je veux te louer, te remercier, te rendre gloire pour ces textes, Seigneur, que tu nous as laissés. Oui, Seigneur, si tu veux, tu peux. Tu peux nous rendre purs, Seigneur, ce que tu as fait quand tu t'es offert toi-même pour nous. Tu le veux, Seigneur, tu veux nous pardonner nos fautes. Et nous avons tous besoin de pardon, Seigneur, quel que soit notre état. Bien portant ou malade, ou... Seigneur, nous sommes tous malades du péché, nous avons tous besoin d'être pardonnés. Merci pour ton pardon que tu es venu nous offrir gratuitement, Seigneur, en t'offrant pour nous. Merci pour ces témoignages de foi. Merci parce que, Seigneur, tu nous invites à croire en nous, déjà pour avoir la foi personnelle, Seigneur, et aide-nous à le manifester dans notre vie, à faire un pas de foi, Seigneur, et ensuite avoir cette joie de te voir agir, Seigneur, quand nous faisons déjà un premier pas de foi. De faire quelque chose que tu nous demandes, qui peut nous sembler illogique, mais Seigneur, qu'on t'entende, qu'on écoute ta voix. Et Seigneur, lorsque nous rentrons dans les œuvres que tu as préparées d'avance, par un pas de foi, bien Seigneur, ô combien, Seigneur, nous nous réjouissons parce que nous voyons que tu marches avec nous. Alors, Seigneur, donne-nous de marcher avec toi en nouveauté de vie. Seigneur, à laisser notre péché derrière, loin. Tu es venu pour nous en débarrasser, Seigneur. Qu'il ne soit pas un fardeau pour nos vies, mais que vraiment on soit, on se lève pour toi et on marche avec toi. Merci de glorifier ton nom, Seigneur. Nous te le demandons. En Jésus-Christ. Amen. Thank you.